Salut à tous, bienvenue dans ce numéro 6, je crois, des podcasts Panenka. Un numéro 6, peut-être le dernier de l'année. Ce sera une spéciale bilan et on va faire le bilan de l'année 2010 de l'équipe de France. Pour ce podcast, j'accueille d'abord, on va commencer par le nouveau, Bruno, des Chroniques Bleues. Salut Bruno.
Salut, bonsoir.
Samir.
Bonsoir messieurs.
Et Vincent.
Oui, dit Barry White ce soir.
Dit Barry White ce soir, d'accord. Ben on va démarrer tout de suite, on va démarrer en faisant une petite chronologie de ce qui s'est passé cette année pour l'équipe de France, toute l'année 2010, et ça avait commencé par un match, on va commencer par allez, Vincent, un match face à l'Espagne, où l'équipe de France avait perdu 2-0, Domenech avait fait quelques tests, je me rappelle de Siani en défense centrale, mais qui pour la plupart ne s'était pas avéré concluant. On va pas rester 10 ans sur ce match, hein. Ils avaient pris une petite leçon de foot, évidemment, de la part du futur champion du monde. On va simplement rester sur, est-ce que c'était pas forcément très intelligent de jouer le grand favori pour la Coupe du Monde, alors que les Français sortaient d'une qualification calamiteuse, sachant qu'en plus... C'était le seul match jouable et à jouer avant la première liste, la liste des 30 pour la Coupe du Monde.
Pour répondre directement à ta question, non, c'était pas forcément très intelligent de faire ce match-là à ce moment-là, contre cet adversaire-là en plus. Voilà. Après, ça a peut-être servi, il y a peut-être eu des enseignements aussi. Mais bon, je pense que foncièrement, c'était quand même une erreur, parce que ça a fait il y a certains joueurs qui ont eu du mal à s'en remettre, à mon avis.
À l'inverse, moi, je pense que c'était pas forcément mauvais, parce que l'Espagne est une équipe qui joue. Ça aurait été un bon moyen de se jauger, parce que quand on sort des qualifications, on est censé avoir quand même une certaine équipe type qui se dégage. Donc ça aurait été une bonne occasion de le tester, en sachant que l'Espagne n'aurait pas été à 100%, parce qu'il y a la Ligue des Champions à cette période-là. Il aurait fallu que l'équipe arrive un peu plus en confiance. Mais sinon, c'était pas spécialement mauvais, je trouve.
Voilà, Espagne, on a tout dit, je pense qu'il y a rien à rajouter. Bruno ?
Non, pas grand-chose, sinon que c'est vrai que les Bleus ont l'habitude de très mal commencer leur année là, depuis 5-6 ans, là, en perdant systématiquement. Mm-hmm. Mais bon, je suis pas sûr que prendre une équipe plus faible, ça aurait changé quelque chose. C'était pas un match très très important à ce moment-là.
Quoi. Bah, du coup, on va passer peut-être au match un peu plus important. C'était les 3 matchs de préparation. Alors, dans l'ordre, on a eu la victoire 2-1 face au Costa Rica, on a eu le match nul face à la Tunisie et pour finir la défaite merveilleuse face à l'équipe B de la Chine. Après ce match contre la Chine, ben, on va reprendre avec Bruno. Comment tu voyais cette équipe?
C'était assez inquiétant parce que d'un côté on pouvait être assez rassuré de voir le 4-3-3 qu'on attendait depuis un moment se mettre en place, mais qui a pas fait illusion longtemps puisque dès le deuxième match contre la Tunisie ça commençait à coincer. Puis ce qui était très inquiétant, c'était de voir que devant, il n'y avait rien qui passait, quoi, hein, que Anelka a déjà commencé à faire un peu ce qu'il voulait, et que le groupe n'avait pas l'air très en confiance et très sûr de lui. Donc ça partait assez mal à ce moment-là.
Et Vincent, en plus, on avait les incertitudes concernant, si je me rappelle bien, c'était Galas qui nous a fait pendant toute la préparation
J'y vais pas, comme un petit peu à l'instar de Vieira, donc en plus, une réédite de choses qui n'étaient pas forcément positives. C'est à l'instar de Vieira en 2006. Bah, moi, c'est vrai que je reprendrai un petit peu ce que dit Bruno, pour aller dans son sens. C'est ce qui a été difficile à voir, c'est de sentir cette équipe glisser, quoi, pas se stabiliser. Ce qui était dommage, c'est que le Costa Rica, même si on s'est beaucoup enflammé, notamment sur un joueur comme Diaby, il y avait quelque chose d'intéressant au milieu de terrain qui commençait à se construire. Par contre, assez vite rendu compte, notamment du problème Anelka, ça c'est vrai, mais surtout du problème Ribéry à gauche. Et alors là, je pense qu'on a tous à peu près senti qu'il y avait un vrai malaise avec ce joueur qui n'avait pas l'air spécialement ni d'apporter ce qu'il était capable d'apporter, ni de se remettre en question. Et bon, ça m'a prouvé par la suite qu'il y avait un problème de ce côté-là.
Ouais, Samir, il y avait eu cette histoire, je ne me rappelle plus exactement quel match c'était, mais où il rentre en jeu et il va n'importe où. Alors est-ce que je me perds, est-ce que c'était pendant la Coupe du Monde?
Non, il a commencé à ce moment-là, mais... Et ce qui était marquant, c'était l'instabilité tactique, c'est-à-dire qu'on démarre sur un schéma et au deuxième match on change, au troisième match on rechange, alors que quand t'arrives à une grande compétition, le but c'est d'installer un schéma de jeu et une équipe. Et là, pas du tout, quoi. De ce point de vue-là, les matchs ont servi à rien. Quasiment.
Oui, voilà, parce qu'on a ben justement, on va passer au premier match de la Coupe du Monde, c'est face à l'Uruguay, 0-0, comme je le rappelle, comme en 2002 d'ailleurs. Un match assez compliqué à suivre, d'autant plus que les Uruguayens n'avaient pas facilité la tâche des Français en alignant une défense à 3 Enfin, à 3 sur le papier, mais à 5.
La fameuse défense à 3, le
exactement.
Retour. Vieux débat chez nous, hein, Florent.
Exactement. Donc, défense à 5 avec des latéraux qui redescendaient très bas et qui ne ressortaient que très très peu. Forlan et Suarez devant qui auraient pu marquer, mais qui n'ont pas marqué. Les Bleus qui ont eu quelques petites occasions. Mais voilà, 1-0-0 à l'arrivée, Bruno était incapable de dire si la France avait fait ou non une bonne opération, tant les Uruguayens avaient bétonné derrière.
Ouais, alors pas beaucoup d'occasions, il y a eu quand même une énorme celle de Govou à la 7ème minute, quand même, qui aurait pu changer beaucoup de choses. Enfin, on peut toujours se demander comment il a pu rater ça. Il y a eu celle de Gourcuff aussi, le coup franc là, qui met dans la lucarne juste avant la mi-temps et que le gardien sort. Par contre, après en deuxième mi-temps, oui, ça commençait à plus passer. Il n'y avait pas vraiment d'étincelles. On avait l'impression aussi qu'au bout d'un moment, l'équipe de France jouait le 0-0 aussi. C'est une vieille habitude avec Domenech, puisque les trois phases finales qu'il a faites en 2006, 2008 et 2010, il a commencé trois fois par un 0-0. Et voilà, je ne sais pas si c'était des consignes qui avaient été données de dire si on voit que ça passe pas, ben on joue le nul, quoi. Mais effectivement, c'était moins mauvais que ce qu'on avait pu voir pendant les matchs de préparation. C'était assez rassurant de ce côté-là. On sortait de là assez sceptique, quoi, pour la suite.
Et Samir, sur ce match?
C'était fermé, c'était le premier match. Je pense que les Uruguayens et les Français pensaient que ça allait jouer contre le Mexique et donc se sont dit si on partage les points dès le début, c'est pas plus mal et on fera la différence après. Les Uruguayens l'ont fait, mais pas nous. Donc,
On va y arriver au Mexique avec Vincent. Sur ce match-là, par contre, c'est la débandade totale.
C'est surtout que là, on est vraiment tombé par contre sur un calibre, hein, parce que le Mexique. Concrètement, un petit peu comme le Chili pendant cette Coupe du Monde. Enfin, c'est vrai que voilà, c'est des groupes qui vivent bien, qui vivent sur des acquis depuis des années, sur des groupes de jeunes qui sont montés en puissance ensemble, sur un projet de jeu. Et quand on tombe face à une équipe comme ça, un petit peu quand on le reverra, si on en parle après un peu plus tard pendant les qualifications contre les Biélorusses, c'est des équipes qui tournent. Et là, ça nous a fait très mal parce que c'est une équipe qui est capable de se projeter très vite vers l'avant. On l'a vu. De toute façon, on l'a payé. Là, le groupe France, l'équipe en elle-même a concrètement volé en éclat sur ce match, quoi.
Et puis Bruno, derrière, on a l'épisode de la mi-temps, l'équipe qui sort sa une, le bus, et puis derrière, de toute façon, c'était plié, quoi.
Oui, d'ailleurs, je me souviens ce troisième match contre l'Afrique du Sud, j'avais même pas envie de le regarder. Enfin, si mathématiquement c'était encore possible, mais le ressort était vraiment cassé, quoi. On sentait que il y avait rien à attendre de là. Enfin voilà, on n'a pas joué. La Coupe du Monde était déjà finie avant ce troisième match.
Et puis en plus, ce troisième match, il se passe directement d'entrée. Il y a l'expulsion de Gourcuff qui va avec le coude et qui a pas loupé quand même le défenseur et qui derrière plie complètement l'équipe. Et voilà, quoi, derrière c'était terminé, Vincent.
Ouais, enfin, on va pas revenir sur tous les faits de match.
Non,
de ce match-là. Il y a un but pour moi, le premier but sud-africain, je crois, où pour moi il y a faute. Enfin, le mec s'appuie sur Diaby à l'entrée de la surface pour aller mettre son but. Pour moi il y avait faute aussi là. Mais on va pas revenir là-dessus parce que les Sud-Africains, ils étaient chez eux devant leur public, ils ont fait leur match,
ouais.
et c'est tout à leur honneur, donc on va pas, c'était un non-match, on savait de toute façon, on pouvait pas espérer beaucoup mieux. Il fallait que cette équipe elle purge complètement ce truc-là, que qu'ils en terminent avec Domenech et qu'ils passent à autre chose. Voilà. Après l'épisode du bus, j'ai envie de dire presque, c'est anecdotique, je comprends pas. Enfin, j'ai du mal à comprendre que pour remettre ça constamment comme ça sur le devant de la scène, quoi.
Ben justement,
c'est presque anecdotique en fait.
Justement, on va pas le remettre sur le devant de la scène. On va passer. Tu parlais de la purge. Ben, on va passer directement à la suite avec Laurent Blanc qui débarque à la tête de l'équipe de France. On est, je crois, c'est début juillet qui fait sa première conférence de presse, je crois. Pour sa prise de fonction, il arrive, il dit « Je veux que l'équipe de France joue un beau jeu ». C'est la même chose qu'il nous disait à Bordeaux. Hein. Et puis, il dit ce que dit n'importe quel entraîneur. Et pourtant, Samir, moi, quand je voyais Pascal Pro, j'avais l'impression que... Enfin, je sais pas, il était tout émoustillé quoi, après les conférences de presse.
Honnêtement, il n'y avait rien d'exceptionnel. Hein. Domenech avait dit la même chose à son arrivée.
Voilà.
Donc, t'attends de voir. Bon, voilà, il a une aura médiatique qui est un peu plus... qui avait un peu plus de valeur, peut-être, que Domenech. Parce que champion du monde, parce que soutenu. Et puis, parce que c'est peut-être un peu plus facile de passer après Domenech, peut-être.
Mais là, je pense que, Bruno, n'importe qui pouvait passer après Domenech. Peut-être pas Pablo Correa, je sais pas.
Oui, mais c'est vrai qu'il a pas fait un début transcendant. Enfin, au moment de sa prise de fonction, On se souvient qu'il était assez cafouilleux aussi sur l'histoire des sanctions par rapport aux mondialistes.
Oui,
enfin, il savait plus trop s'il fallait faire quelque chose et lui, il aurait préféré les garder. Enfin, après, il y a eu cette histoire de dire ils sont tous sanctionnés, bon, ce qui était assez bizarre aussi. Voilà, ça n'a pas commencé d'une façon particulièrement brillante ou particulièrement remarquable.
Ouais, mais d'ailleurs, sur le terrain non plus, puisqu'il y a ces deux premiers matchs face à la Norvège pardon, et au Bélarus, et où, étonnamment, ben Bruno toujours allez. Après ces matchs là c'est surtout les gars qui sont appelés donc la nouvelle génération vu qu'on en est encore aux absents et aux 23 qui ne peuvent pas être appelés même s'ils reviendront pour le Bélarus mais après la défaite en Norvège c'est en gros le discours ambiant c'est l'équipe de France n'a plus de réservoir et n'a plus le réservoir de joueurs pour avoir une équipe compétitive au haut niveau bien sûr.
Oui. Et ce qui est remarquable d'ailleurs, c'est que très vite, Laurent Blanc va revenir avec à des joueurs qui faisaient le noyau de l'équipe de Domenech. Quoi. Et si on regarde rétrospectivement, il y a eu très peu de nouveaux, même à la limite, M. Villa, il avait déjà été retenu dans la liste des 30, Rami avait été retenu aussi sans jouer. Donc finalement, les innovations enfin, en termes de joueurs de Laurent Blanc sont quand même assez restreintes.
Mais on va rentrer dans le détail des joueurs un peu après, on va juste aborder le dernier enchaînement, les 4 victoires tout simplement d'affilée sur lesquelles reste l'équipe. Donc la victoire en Bosnie 2-0, la victoire face à la Roumanie 2-0 aussi, le Luxembourg 2-0 toujours, et l'Angleterre 2 buts à 1, Vincent. Le match fondateur, ce qui est étonnant, c'est que c'est en Bosnie, face à la seule équipe qui a vraiment joué face à l'équipe de France cette année, mis à part l'Espagne, évidemment. Qui a résisté et qui a tenu le ballon aussi, même si le Mexique avait peut-être, je pense, avait tenu aussi. Mais voilà, c'est sans doute l'équipe la plus joueuse. Et ben la France, pour l'affronter, s'est mise en 4-3-3 et avec peut-être son équipe la plus défensive de ces derniers mois, en tout cas des mois Laurent Blanc, ça c'est certain. Avec le trio, c'était du Diarra, Nvilla, Diaby dans l'entrejeu, donc c'était costaud quoi.
Bah, c'était à la fois costaud et en même temps cohérent par rapport à ce qu'avait proposé Laurent Blanc. Et moi, c'est ce que je retiens sur l'enchaînement des matchs, notamment en défense, c'est cette cohérence. Voilà, il sait où il va. Enfin, en tout cas, il a clairement une mission pour lui, c'est reconstruire l'assise défensive. Après, sur ce match-là, on va dire que la Bosnie a été joueuse, bon, avec ses moyens. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle était devant son public. Mais ça reste quand même, théoriquement, si on prend la valeur intrinsèque des joueurs, il y a un écart. Donc, il s'est révélé sur ce match-là. Match fondateur, je sais pas. Je pense que, véritablement, il y a un crescendo qui se fait. Est-ce que c'est véritablement ce match-là parce que c'est une victoire? Oui, on va dire ça comme ça. Mais moi, je pense que c'est plus diffus que ça sur l'ensemble de ces matchs-là. Il y a une confiance qui se recrée. Et ça se construit brique par brique.
Ouais, une confiance, Samir, si on prend les trois matchs qui suivent, l'équipe de France bon, joue le Luxembourg, bon, ça c'était plié d'avance, il aurait fallu vraiment une très très grosse contre-performance pour que l'équipe passe à côté, mais face à la Roumanie, ça tient à pas grand-chose, hein, les Roumains touchent le poteau, et surtout, ouais. le premier but français, ben, ça part d'une position de hors-jeu de Loïc Rémy, comme quoi ça tient pas à grand chose hein, derrière.
Ah, c'est les trois premiers matchs tiennent pas à grand chose. La Bosnie, si la France gagne, c'est parce que le contexte est contre elle, c'est-à-dire que à ce moment-là, on pensait que la Bosnie était favorite et on disait que la France allait jouer le match nul défensif, donc moins de pression. Et je pense que cet état d'esprit, le fait d'avoir pu un peu déjouer les pronostics ou avoir pu s'affirmer, ça a joué ensuite sur la Roumanie. Quand tout va bien, quoi. Tout s'enchaîne favorablement. Je pense que c'est cet effet-là. C'est pour ça que je pense qu'on peut dire que la Bosnie est le match un peu fondateur du groupe, sur la confiance.
Et puis après, pour terminer ce rappel chronologique, on va rester un petit peu avec Bruno sur le match contre l'Angleterre, même s'il n'y a pas grand-chose à retenir. Victoire à Wembley, du prestige, un but de Valbuena, on va en parler après de Valbuena. Difficile de tirer quoi que ce soit d'intéressant pour vraiment le moyen terme ou le long terme. Il faudra attendre de jouer le Brésil en 2011.
Oui, enfin, quoi, contre le Brésil, ça risque de faire un peu pareil si l'équipe vient avec... pas avec ses titulaires ou du moins pas très motivés, ce qui est tout à fait possible à cette période de l'année. Mais bon, je pense que c'est quand même une victoire qui permet de continuer à prendre confiance. On partait de tellement bas que même une victoire facile contre un adversaire qui n'a pas trop joué, c'est quand même bon à prendre. We'll be right back.